Bonjour frères et sœurs, bonjour. C'est toujours une joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. On a parlé de la nourriture, voilà la parole, notre nourriture de chaque jour. Ce matin, Dieu veut encore nous donner cette parole comme nourriture. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, comme nous l'avons chanté, d'ailleurs, merci. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus, qui est venu pour nous sauver. Merci aussi de nous avoir envoyé ta lumière par le Saint-Esprit. Lui qui est venu habiter en nous. Lui qui dirige nos vies, lui qui conduit nos pas. Lui, Seigneur, merci pour l'œuvre pleine, totale et entière que tu as accomplie pour le salut de nos âmes. Nous voulons aussi faire cette prière comme la Samaritaine. Donne-nous toujours de cette eau. Oui, en effet, Seigneur, nous en avons besoin chaque jour. Accorde-nous cette grâce de boire tous les jours à ta source. Bénis chacun d'entre nous à travers l'écoute de ta parole et souviens-toi aussi de nos enfants, que cette même parole qu'ils vont recevoir ce matin puisse trouver une place de choix dans leur cœur et que la foi puisse se manifester aussi dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, frères et sœurs, j'aimerais un peu à la suite des deux dimanches passés, aborder un thème qui intéresse en réalité tous les chrétiens, hein, sans exception, c'est celui de la volonté de Dieu. Est-ce la volonté de Dieu? Il nous arrive souvent de nous poser cette question. Alors je vous invite à suivre la lecture de deux versets dans le 12e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Romains 12, les versets 1 et 2. Lisant au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la question de la volonté de Dieu est une question que tous les chrétiens, en tout cas de toutes les époques, se posent ou devraient se poser. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors, quel que soit ce qui motive le chrétien dans cette démarche de recherche de la volonté de Dieu, quel que soit le motif pour lequel cette volonté de Dieu est recherchée, alors ce qu'il faut signaler, c'est que, évidemment, c'est un sujet qui préoccupe chaque enfant de Dieu, sans exception, en tout cas dans sa relation avec son Père céleste. C'est donc une question qui suit le chrétien partout. Alors, ça arrive qu'il y en a qui se la posent avant, et ça arrive aussi qu'il y en a qui se la posent pendant. Et il arrive même qu'on se la pose malheureusement trop tard, après s'être lancé dans des projets sans issue, en quelque sorte. À ce sujet, la lecture de la parole de Dieu nous enseigne ceci. Qu'avant même de chercher si c'est la volonté de Dieu, il faut se demander d'abord Si être dans la volonté de Dieu est la destination, le but, ou si être dans la volonté de Dieu est la route, le chemin qui conduit à destination, au but. Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, l'apôtre Paul, de son côté, en tout cas, connaissait bien le chemin. Vous voyez, le chapitre, le verset 1 de Romains 12 constitue ce qu'on appelle un axe d'orientation ou un axe de réorientation. Axe à partir duquel cette lettre, cette épître aux Romains, va prendre une nouvelle direction. Que s'est-il passé ? Dans les 11 premiers chapitres de cette épître aux Romains, l'apôtre Paul a traité de ce que le chrétien croit et pourquoi il le croit. Ce que je crois et pourquoi devrais-je le croire ? Pourquoi je le crois ? Frères et sœurs, la vie chrétienne, cette vie à laquelle Dieu nous a tous appelés en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire de sentiments ni d'émotions, mais c'est une affaire de conviction. Que crois-tu ? Et pourquoi le crois-tu ? Paul a traité de ce que le chrétien croit et pourquoi il le croit dans les 11 premiers chapitres de cette épître aux Romains. Il est question en ce moment-là de bâtir des convictions, de bâtir des fondements, en tout cas convictions et fondements issus des acquis de l'œuvre de la croix. Vous voyez que ce livre doit donc être ce qu'on appelle un livre de chevet pour tous les chrétiens. L'apôtre Paul nous a dit d'abord comment Christ nous a sauvés de la peine et de la malédiction du péché. Ensuite, comment revêtir la puissance de Christ, cette même puissance qu'il a ressuscitée d'entre les morts. Et enfin, comment être libéré ou délivré ou sauvé de la puissance du péché. Maintenant, à partir du chapitre 12, il va nous dire comment nous mettre au service de Christ, comment découvrir la volonté de Dieu et enfin, comment l'accomplir. Vous voyez bien qu'il y a là, en tout cas, une logique dans la démarche de l'apôtre Paul. Comment Christ nous a sauvés de la malédiction du péché ? Comment revêtir la puissance de Christ ? Comment être libéré de la puissance du péché ? Ensuite, comment nous mettre au service de Christ ? Comment découvrir la volonté de Dieu ? Et enfin, comment accomplir cette volonté ? Il faut savoir ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que la volonté de Dieu, en fait, a deux dimensions. Elle est d'abord universelle en ce qui concerne le caractère. On a parlé dimanche dernier de la conformité à Christ, le fait d'être rendu semblable à Christ. Ça renvoie justement au caractère. Donc, elle est universelle, cette volonté, en ce qui concerne le caractère, mais elle est aussi individuelle, personnelle, en ce qui concerne le service. Il est facile de voir et même de savoir que Dieu veut que votre caractère chrétien mûrisse, grandisse et parvienne à maturité. Mais le service, c'est-à-dire ce que vous devriez faire et comment devriez-vous le faire, le service, voilà une question délicate. Donc, une fois qu'on a dit ça, à quoi nous servira-t-il de savoir que la volonté de Dieu a deux dimensions ? Alors, la première étape, en tout cas dans la découverte de la volonté de Dieu d'après l'apôtre Paul, c'est de présenter à Dieu nos corps en sacrifice. Il parle bien de présenter à Dieu nos corps en sacrifice, c'est-à-dire comme une offrande. Alors j'insiste parce qu'il s'agit bien du mot corps, parce que dans d'autres versions on dit offrez-vous vous-même à Dieu. Mais le texte grec parle bien du corps, d'autant plus que l'apôtre Paul est d'ailleurs celui qui a le plus dans la Bible évoqué les aspects du corps, de notre corps. Donc voilà la première étape à la découverte de la volonté de Dieu d'après Paul, c'est de présenter à Dieu nos corps comme un sacrifice, une offrande. Alors, beaucoup de chrétiens, malheureusement, mettent la charrue avant les bœufs. Ils s'impatientent de savoir ce que Dieu veut qu'ils fassent, c'est-à-dire le service. Alors que sur le plan spirituel, d'ailleurs, voire même psychologique, ils ne sont pas encore prêts. Ils n'ont pas encore, en gros, le caractère pour le faire. Autrement dit, leur caractère n'est pas encore approprié pour le service. C'est là que le verset 1 donc de Romains 12 nous est d'une grande utilité. Avant de nous demander de le servir, Dieu veut avoir en quelque sorte la garantie, Dieu veut avoir en quelque sorte l'assurance que nous lui appartenons et que nous avons commencé à lui ressembler à travers justement ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On a parlé de la semence dimanche dernier. Dieu met en nous la semence divine. L'apôtre Paul ne mâche pas ces mots. Nous devons donner nos corps comme un sacrifice vivant. Il précise bien vivant. Il ne s'agit pas des sacrifices morts, mais vivants. Cela nous paraît peut-être élémentaire, mais Paul peut devenir très concret. Ce n'est pas trop difficile, frères et sœurs, de s'asseoir en quelque sorte dans l'église et de promettre à Dieu que notre âme et notre esprit lui appartient. Après tout, nous avons l'habitude de chanter « Prends mon âme, prends ma vie, je te donne tout. » Voilà. Mais après tout, lorsqu'on voit bien, ce sont des choses qui lui appartiennent de droit. Il est notre créateur et en vue du ciel et de tout ce qui arrivera après notre mort. C'est lui, l'auteur de toutes choses. Mais qu'en est-il du corps? Qu'en est-il du corps? Dieu n'a pas seulement sauvé notre âme, il a sauvé notre être tout entier, y compris notre corps. Quand le chrétien devient suffisamment sérieux, quand il devient suffisamment responsable dans sa relation avec Christ, au point justement d'y consacrer son corps, c'est-à-dire ce qu'il fait avec ses mains, ce qu'il fait avec ses yeux, ce qu'il fait avec ses oreilles, ce qu'il fait avec sa bouche, ce qu'il fait avec ses pieds, etc., etc., alors, dit l'apôtre Paul, il est prêt à connaître la volonté de Dieu et à l'accomplir. Est-ce que c'est trop demandé? Peut-être, mais avant de protester, pensez, dit Paul, à ce que Christ a fait pour vous. Ainsi, le premier pas, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie, et non pas d'abord la volonté de Dieu pour le service. Pour notre vie, nous ne pourrons pas connaître et accomplir la volonté de Dieu sans avoir offert notre corps à Dieu, notre personne entière à Dieu, mais dans un acte en tout cas de consécration et d'engagement. Un acte fait de façon intelligente, de façon consciente et de façon responsable. Et ce n'est que quelque chose, alors pardon, et ce n'est pas quelque chose à faire, je veux dire une fois par an. Par exemple, à Noël, ou lors de notre retraite spirituelle du début de l'année, ou lors du culte de Pâques, ou lors du culte de la Pentecôte, que sais-je encore. Non, c'est quelque chose à faire tous les jours de notre vie. En donnant d'abord toute notre personne à Dieu, évidemment, nous mettons les bœufs à leur place, c'est-à-dire devant la charrue. Nous nous préparons évidemment à agir dans la volonté de Dieu et la puissance qu'il nous faut, c'est-à-dire notre caractère chrétien, se trouvera alors là où elle pourra faire du bien, le service chrétien. Si nous pensons que Dieu nous demande trop, rappelons-nous simplement tout ce qu'il a fait pour nous. Supposons que nous faisons tout cela, alors dans quelle direction nous nous dirigeons? Et que dire du service? Alors la deuxième étape, justement dans la découverte de la volonté de Dieu, d'après l'apôtre Paul, est un test. Au verset 2 se trouve exactement un test pour la plupart de nos projets, pour la plupart de nos actions. Ne vous conformez pas au présent siècle. Une autre version dit, ne modelez pas votre comportement sur les coutumes de ce monde. Cela ne veut pas dire qu'il nous faut devenir en quelque sorte quelqu'un de bizarre, mais il nous faut nous écarter du système superficiel des valeurs du monde. Système qui tourne autour de quoi exactement ? Un système qui tourne autour de tout ce qui est sensualité, tout ce qui est sexe, tout ce qui est humour macabre, et tout ce qui est corruption, etc., etc. Le chrétien doit souvent, mais vraiment très souvent, discerner ce qui est du monde et ce qui est agréable à Dieu. Et ce discernement, bien entendu, peut paraître parfois difficile. Cependant, ce sont nos motivations qui nous aideront à décider en quelque sorte. Quelqu'un a dit, l'homme a toujours deux raisons pour faire quelque chose. L'homme a toujours deux raisons pour faire quelque chose. Une bonne raison et la vraie raison. Une bonne raison et la vraie raison. Une situation peut être difficile, compliquée, mais le choix en réalité est habituellement clair. Cherchez-vous d'abord à plaire à vous-même? Cherchez-vous d'abord à plaire à un petit groupe de personnes? Ou encore cherchez-vous à plaire à une foule? Ou cherchez-vous finalement à plaire à Dieu? Souvenez-vous du procès de Jésus. À qui voulons-nous plaire? Le monde, frères et sœurs, est très concret et nous en faisons partie, en tout cas tout au long de la journée. Comment échapper à son emprise? Romains chapitre 12, le verset 2 continue en suggérant, mais soyez transformés. Soyez modelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, laissez-vous transformer dans votre façon de voir. C'est avec notre cerveau que nous réfléchissons, que nous pensons. Si donc nous voulons renouveler notre pensée, nous devons d'abord commencer par considérer ce que nous regardons et ce que nous lisons. Vous savez, les prophètes de ce qu'on appelle la nouvelle modernité, eux prêchent à partir des revues un peu du genre Playboy et répètent différentes versions d'un texte que nous connaissons mais qui peut devenir lassant. Mangeons, buvons et amusons-nous bien, mais vraiment très bien aujourd'hui, car demain, nous mourrons. Il serait intéressant de savoir ceci. Parmi les chrétiens qui prétendent extérieurement vouloir connaître la volonté de Dieu, combien sont en réalité esclaves de la publicité, esclaves des médias, qui cherchent à développer leurs appétits matériels? D'ailleurs, la plupart d'entre nous n'ont pas besoin de stimulation dans son domaine. Nos appétits sont déjà assez forts et il nous faudrait plutôt apprendre à contrôler nos impulsions et nos désirs naturels pour les mettre en accord avec le thème de la volonté de Dieu. Le piège qui guette beaucoup de chrétiens est ce qu'on appelle la double personnalité. Et une liste de règles pour la conduite extérieure et une autre liste de règles pour la vie intérieure, une vie mentale, pour nos pensées. Il n'est pas difficile d'apprendre à jouer au jeu appelé le christianisme d'église. Nous apprenons à ne pas faire certaines choses, ou du moins à ne pas être vu en train de les faire. Nous apprenons à nous montrer assez souvent à l'église afin d'être catalogué comme fidèle ou comme chrétien engagé, pourquoi pas, alors nous paraissons très spirituels. Mais nos pensées se fixent sur des choses viles, se nourrissent du matérialisme, d'ambition personnelle et de fois même de haine, de jalousie, etc., etc. Que faire donc si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, si nous voulons suivre la volonté de Dieu? Donnons-lui, dit l'apôtre Paul, notre corps, notre personne tout entière comme un sacrifice vivant. Ce qui comprend donc le corps et nos pensées, toute notre manière de voir les choses. Il peut renouveler en effet notre esprit de l'intérieur si seulement nous le lui permettons. Alors peut-être arrivons-nous maintenant à comprendre le message. La volonté de Dieu, frères et sœurs, n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter par correspondance. Vous prenez votre téléphone et sur la base de quelques touches, avec les informations de votre carte bleue, vous passez la commande. Et dans quelques jours, voilà, un véhicule arrive à votre domicile pour la livraison. Non, il n'y a pas de formule, mais il y a quelques points de repère à considérer dans chaque situation, dans chaque cas. Un pasteur effectuait un voyage en mer. Au moment où le bateau arrive donc au port, la mer devient très agitée au point où l'entrée semblait trop étroite. Se tournant vers le capitaine à côté de lui, ce pasteur dit: « Mais capitaine, comment savez-vous à quel moment faire la manœuvre pour entrer dans le port ?»« C'est un art, » répond le capitaine. « Est-ce que vous voyez ces trois lumières sur la plage ?» Alors quand elles se trouvent, en tout cas toutes les trois en ligne droite, c'est alors que je peux entrer. Ainsi, pour parvenir à la découverte de la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur cette illustration en disant qu'il y a trois feux de direction à tenir en compte pour le chrétien. Trois feux de direction. Lorsque ces trois feux se trouvent allumés, voire même alignés, vous pouvez y aller. Si ce n'est pas encore le cas, attendez jusqu'à ce qu'il le soit. Le temps d'attente peut être difficile, c'est ce qu'on appelle la patience, mais c'est souvent la meilleure chose à faire. Quelle signification donner à ces feux? Alors, le premier feu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. La direction de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est fondamentale dans la recherche de la volonté de Dieu. Il est intéressant de noter que beaucoup d'entre nous disent vouloir connaître la volonté de Dieu, mais refusons de comparer nos projets, nos plans, nos habitudes avec l'enseignement clair et net de la parole de Dieu. Comment pouvez-vous affirmer que vous cherchez à connaître la volonté de Dieu si vous ne lisez pas la Bible, si vous ignorez ce que la Bible enseigne? C'est comme si vous alliez demander conseil à quelqu'un, mais en même temps, vous l'empêchiez de parler. Ce que l'on cherche, en fait, c'est plutôt son accord par rapport à tout ce que vous allez lui dire. Une autre erreur, c'est de considérer la Bible comme, en quelque sorte, un livre de réponses. Nous avons des questions et la Bible, elle a des réponses. Nous tournons donc les pages en cherchant ce qu'on appelle le bon verset. Voilà, ce verset-là qui va nous aider à dire oui, c'est ça. La Bible, frères et sœurs, la bonne nouvelle, on l'a entendu, c'est le message de Dieu. Celui que Dieu nous adresse personnellement. Si nous désirons communiquer avec Dieu, adressons-nous à lui, puis attendons qu'il nous parle. Ensuite, écoutons-le. Voilà donc le premier pas d'ordre, la marche avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ. Et il y a quelque chose à voir avec notre vie, surtout si nous voulons vivre une vie chrétienne et non pas simplement pratiquer la religion. Le deuxième feu, c'est effectivement, vous l'avez compris en parlant du Saint-Esprit, c'est le témoignage intérieur de l'Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit nous est donné au fur et à mesure que nous marchons selon l'Esprit. Et dimanche passé, c'est ce qu'on a essayé de voir à travers ce verset de l'apôtre Paul qui dit « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul Esprit. » Marchez selon l'Esprit, dit aussi Paul, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce qui fait que le Saint-Esprit est la clé, mais la clé essentielle pour être chrétien. Je dis bien être chrétien pour ne pas dire être disciple sans être religieux. La prière, évidemment, est essentielle ici. Mais là encore, dommage qu'on ait fait de la phrase suivante un cliché. Il faudrait que je prie à ce sujet. Oui, il faudrait que je prie à ce sujet. Alors peut-être faudrait-il changer cette phrase en disant, mais il faudrait que j'en parle avec Dieu. Oui, avec Dieu, et non pas seulement à Dieu, mais avec Dieu, il faudrait que j'en parle. Le témoignage intérieur de l'Esprit nous est disponible. Il résulte de notre marche avec l'Esprit et de notre vie avec lui. Mais cette marche avec l'Esprit est une affaire permanente, une affaire de chaque jour et non pas, voyez, une sorte de bouton sur lequel on appuie lorsqu'on a besoin d'un petit conseil de la part du Seigneur. Après la parole de Dieu, premier feu, le témoignage intérieur de l'Esprit, deuxième feu, nous arrivons donc au troisième feu, qui sont, en fait, les circonstances extérieures. Alors, l'erreur que nous commettons souvent, évidemment, c'est celle d'inverser cet ordre des choses. En tout premier lieu, on fait appel à un comité devant une situation, on essaie d'expertiser les circonstances, ensuite, on examine tous les faits, et on en parle avec un tel ou un tel, et on lit ensuite quelques sujets, mais si nous commençons par l'examen des circonstances extérieures, nous dépasserons rarement cette étape, cette démarche. Comment pouvons-nous les évaluer, ces circonstances, convenablement, si nous n'avons pas la direction de la parole et du Saint-Esprit? Comment? Mais supposons que nous ayons l'impression que la parole de Dieu et la direction du Saint-Esprit s'accordent. De quelle façon ferons-nous l'évaluation des circonstances pour agir ensuite? Alors cela peut devenir passionnant, voire très passionnant. Nous devons agir dans la foi sur la base de ce que nous savons déjà de la parole et du Saint-Esprit. Il est évident qu'il faut maintenant entreprendre certaines actions valables. Certains appellent cela, voyez, ouvrir plusieurs portes. Plusieurs portes. Alors parfois, justement, Dieu fermera toutes les portes, sauf la bonne. Sauf la bonne. Il se peut même que vous ayez à en ouvrir quelques-unes avant de trouver la bonne. Mais, bien aimé, la volonté de Dieu ne nous arrive pas tout droit du ciel, sous la forme en tout cas d'un courrier express. Non. Dieu nous a écrit au travers de sa parole, il nous parlera par le témoignage intérieur de son esprit et il nous guidera lorsque nous devrions peser les circonstances. Cela n'a plus l'apparence d'une formule, mais nous pouvons en faire. Pourquoi pas une formule, quand même. Bref, nous pouvons adopter une attitude religieuse sur ces trois points de repère, mais nous pouvons aussi les utiliser de manière authentique dans la foi, dans l'obéissance et dans l'engagement de notre personne. Alors, nous verrons par notre expérience personnelle que les voies de Dieu vont toujours, mais vraiment toujours, nous satisfaire. Si nous désirons d'autres indications pour nous aider à découvrir encore davantage la volonté de Dieu, je vous invite à continuer à lire Romains 12. Nous y trouverons encore quelques conseils pour faire un examen de conscience honnête et sincère. Assurons-nous, dit Paul, de bien regarder le côté négatif et aussi le côté positif. Quant à moi, dans 2 semaines, je reviendrai sur le même sujet de la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement. Nous allons poursuivre ensuite l'écoute de cette parole par le partage du pain et du vin.